Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter commence ici. Poussez la porte, installez-vous. Bienvenue sur la planète et sa banlieue. C'est le premier journal de la soirée avec lequel on commence comme d'habitude. Et Amélie Perrier, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi 16 octobre commence avec un témoignage au procès du médiateur.
Sa voix était attendue, celle d'Irène Frachon. Elle a résonné haut et fort au procès du médiateur cet après-midi. Un réquisitoire musclé des méthodes des laboratoires Servier. Un chercheur français emprisonné dans l'une des pires prisons de Téhéran en Iran depuis 4 mois. Les autorités françaises le confirment aujourd'hui. Les collègues universitaires s'inquiètent d'une détention arbitraire. Les aides de la PAC sont les très bienvenues pour les agriculteurs souffrant de la sécheresse. L'avance qu'ils sont en train de toucher a été augmentée en conséquence. L'homme de Vitruve, le dessin de Léonard de Vinci, bien parti pour figurer au programme de l'exposition du Louvre qui débute la semaine prochaine. La justice italienne autorise le prêt des œuvres. La pluie continue de traverser la France demain. Le point météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
À 18h15, un jour dans le monde au Canada ce soir, qui vote pour ses élections législatives ce lundi. Nous avons, nous, une image sûrement très tronquée de Justin Trudeau qui entend rester Premier ministre. C'est l'occasion ce soir de plonger dans ce Canada à l'ombre du grand frère américain dont il cherche justement à se démarquer. Le bruit du monde est en Israël, parmi les Arabes israéliens. Puis 19h20, le téléphone sonne ce soir. On prend des nouvelles de Notre-Dame, 6 mois après l'incendie. Chantier en arrêt, peut-on lire ici et là? On verra si c'est le cas. On parlera de l'énormité de ce qui reste à consolider avant même de songer à reconstruire. On parlera argent et flèches, si vous le souhaitez, à vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Elle est donc le visage de l'affaire Irène Frachon au procès du médiateur aujourd'hui.
La pneumologue de Brest témoignait cet après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Paris. 9 ans après avoir révélé le scandale de ce médicament contre le diabète, prescrit comme un coupe-faim et accusé aujourd'hui de provoquer des défaillances cardiaques. Son fabricant, les laboratoires Servier et l'agence du médicament encourent une condamnation. Charlotte Piré, vous suivez les audiences pour France Inter. Bonsoir.
Bonsoir.
Après 3 semaines de débats parfois arides, on attendait donc cette parole, celle de la médecin devenue lanceuse d'alerte.
Oui, tout simplement magistrale. Elle, ce petit bout de femme de 56 ans, arrivée avec son éternel chignon, sa chemise cartonnée sous un bras, son ordinateur portable dans l'autre, elle, pneumologue, débarquée de Brest et qui, quand elle se lance dans son long exposé, a de quoi rivaliser avec les ténors du barreau assis dans la salle. Il y a d'abord ce propos liminaire où elle raconte comment, jeune interne, elle découvre les ravages de l'isoméride, premier coupe-faim des laboratoires Servier. Puis, j'ai suivi mon époux à Brest, il a fait des cartes marines, c'est un bel endroit pour les faire. Là, au CHU de la ville, elle va rencontrer d'autres victimes de l'isoméride. Aujourd'hui, elles sont presque toutes mortes, raconte-t-elle, et aucune n'a été indemnisée. Elle va surtout découvrir le Mediator, autre médicament de Servier, et mêmes effets. Elle va mettre des années à le prouver, années de doute. Je me disais, soit je suis folle, soit il faut que j'avance. Années de bataille contre les laboratoires, les institutions, années de démonstration comme celle qu'elle livre en ce moment, graphiques, documents et grands gestes à l'appui.
Et justement, dans ce témoignage, on retient, Charlotte, la charge très sévère d'Irène Frachon contre les méthodes des laboratoires Servier.
De son débit rapide, certes, mais avec le calme et la mesure dont elle ne se départit pas, Irène Frachon dépeint les méthodes des laboratoires Servier, parle de leur sentiment d'impunité, de toute puissance, raconte comment ce journaliste a reçu des menaces jusqu'à la photo de sa fille à l'école glissée dans sa boîte aux lettres, raconte aussi comment elle a fait certifier les traductions de ses articles scientifiques publiés en anglais, car j'ai été horrifiée de voir comment elles ont été falsifiées par Servier, comment cela a amené à ce qu'un grand nombre de victimes soient déboutées de leur demande d'indemnisation, des victimes qui, dans la salle, opine tristement du chef.
Charlotte Piré avec Stéphane Beaufils au moyen technique. Merci à vous deux. Le procès du médiateur des laboratoires Servier et de l'agence du médicament est prévu pour durer jusqu'en avril prochain. Une ancienne garde des Sceaux dans le viseur de la justice. Également une enquête visant Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer a été confiée à des juges d'instruction à propos des contrats de conseil qu'ils ont signés avec Renault Nissan sous l'ère du PDG Carlos Ghosn. L'ancienne ministre aurait touché 900 000 euros d'honoraires en tant qu'avocate versé par une filiale néerlandaise du constructeur automobile. L'information judiciaire ouverte l'été dernier se penche sur des soupçons d'abus de biens sociaux et de corruption active et passive. Lui est en détention en Iran. Le chercheur français Roland Marshall est emprisonné depuis le mois de juin. Le ministère des Affaires étrangères le reconnaît officiellement aujourd'hui. Ce chercheur a été arrêté à Téhéran le même jour que sa collègue franco-iranienne Fariba Adelkar, anthropologue spécialiste de l'islam chiite. Paris demande aujourd'hui la fin sans délai de cette situation inacceptable. Les deux universitaires travaillaient pour Sciences Po et le fonds d'analyse des sociétés politiques. Leurs collègues, à qui on a demandé de garder le silence jusqu'à ce matin, sont inquiets à l'image de Richard Banegas du série de Sciences Po. Il a codirigé la revue politique africaine avec Roland Marshall.
C'est a été un choc pour toute la communauté académique lorsque on l'a appris. Roland Marshall est un chercheur d'une droiture extrême, d'une très grande rigueur intellectuelle, avec aussi la causticité, l'ironie mordante qui le caractérise, qui a fait aussi sa marque, j'allais dire, de fabrique, notamment dans son analyse de la guerre en Afrique ou des interventions internationales. Il ne s'est pas fait que des amis, notamment dans la diplomatie française qui le protège et qui essaie de sortir de là aujourd'hui. Ses relations avec l'Iran n'ont rien à voir avec sa recherche de terrain en Afrique de l'Est. Donc on a tous été choqués, surpris de cette arrestation qui est visiblement plus une prise, je dirais, de gage, j'allais dire d'otage, une prise de gage par la République islamique d'Iran dans un contexte international qui est extrêmement troublé, comme on le sait depuis quelques mois.
Le professeur à Sciences Po, Richard Banegas, il était joint par Olivier Poujade. Y a-t-il un lien ? Il faut rester prudent, mais le gouvernement condamne également aujourd'hui l'arrestation d'un opposant iranien en France. Rouhollah Azam bénéficiait du statut de réfugié dans l'Hexagone. Il a été arrêté hors du territoire lors d'une opération revendiquée par les gardiens de la révolution iranien, sans préciser le lieu ni la date. Il est accusé par Téhéran d'être un opposant contre-révolutionnaire dirigé par le renseignement français. Et cette dernière information d'Iran, où l'on apprend que le frère du président iranien Hassan Rouhani a été incarcéré à Téhéran. Il va purger une condamnation à 5 ans de prison pour corruption. À l'étranger encore, les tensions s'exacerbent à Hong Kong. La chef du gouvernement a dû arrêter son discours de politique générale à cause des huées des députés de l'opposition. Carrie Lam avait l'intention de regagner la confiance de la population après plus de 4 mois de crise politique et de manifestations. Aujourd'hui également à Hong Kong, une figure de proue de la contestation anti-Pékin a été attaqué à coups de marteau, blessé à la tête par des inconnus. Son organisation dénonce un acte de terreur politique. Après des annonces et des contre-annonces, le président turc Erdogan va voir le vice-président Mike Pence. L'Américain vient demander l'arrêt de l'offensive turque en Syrie. Par ailleurs, les autorités turques ont placé en garde à vue 186 personnes officiellement accusées d'avoir fait de la propagande terroriste. En fait, elles ont simplement critiqué l'opération militaire.
Il est 18h presque 9 à Amélie. Retour en France où les agriculteurs vont pouvoir souffler après une saison difficile.
Ils ont souffert et souffrent encore de la sécheresse. Aujourd'hui, ils reçoivent une avance des aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. Elle est versée chaque année à cette période, mais cette fois-ci, à cause de la pénurie d'eau et de pluie, elle est revue à la hausse de 50 à 70%. Le reste sera versé à la fin de l'année. Une avance bienvenue, comme l'a constaté Pierre-Antoine Lefort dans la Creuse.
Dans son étable, Jean-Marie Collomb nourrit ses vaches. Des granulés achetés depuis cet été.
Bah là, c'est un aliment sécheresse, un mélange de plusieurs céréales et puis betteraves, pulpe de luzerne. Et ça sert à complémenter le manque de fourrage.
En tout, pour faire face, l'éleveur de la chapelle Saint-Martial a dû se procurer 50 tonnes de paille, 30 de granulés et 3000 litres de mélasse de betterave, soit 15 000 euros. Et aujourd'hui, les factures s'accumulent. Sans cette aide, ça aurait été très compliqué de les régler.
J'avais demandé de payer un peu plus tard, donc ça aurait été compliqué. Et puis c'est compliqué pour nos fournisseurs qui attendent et puis qui commencent à perdre aussi confiance en nous.
Mais Jean-Marie Collomb insiste, cet argent, ce n'est pas de l'argent en plus, simplement une avance. Et l'éleveur voisin, Romain Paris, est bien de son avis.
Quand on les touche maintenant, ça nous laisse un peu un champ de vision un peu plus large. Mais après, est-ce que ça va changer grand-chose, quasiment sûr qu'on va être obligé d'acheter soit du foin ou du maïs en botte pour nourrir les vaches dehors. C'est un cercle vicieux. On nous donne de l'argent et on le redonne derrière. On le voit juste passer, c'est tout.
Les deux éleveurs attendent donc beaucoup du dossier de demande de reconnaissance en calamité agricole qui est en cours d'élaboration. S'il est accepté, les aides n'arriveront pas avant le printemps.
Certains agriculteurs en font partie les tranches les plus pauvres de la population française. Des pauvres de plus en plus relégués dans la précarité, selon les chiffres publiés par l'INSEE ce soir. Les inégalités augmentent en 2018 et le taux de pauvreté s'aggrave. Il passe de 14,1 à 14,3% de la population. C'est à cause notamment de la baisse des APL décidée par le gouvernement, les allocations logement cruciales pour les plus démunis. L'économiste François Soulages le confirme. Les pauvres ont été clairement pénalisés par les choix budgétaires du quinquennat.
Ça fait une augmentation extrêmement sensible du taux de pauvreté dans notre pays. La politique gouvernementale est clairement orientée vers les classes moyennes et ou les classes moyennes inférieures et les plus pauvres. Ils sont perdants. Ce qui a été fait par le gouvernement, notamment sur l'allocation logement, ne sert pas, loin de là, la cause des plus pauvres. Franchement, quand on est dans leur situation et qu'on est perdant, même si c'est peu perdant, ça ne peut pas être acceptable. On voit bien que dès qu'on touche à l'allocation logement, on a un résultat immédiatement négatif sur les personnes les plus pauvres. Donc il faut être extraordinairement prudent et nous on continue à dire ne touchez pas à l'allocation logement dans les réformes que vous êtes en train de préparer, notamment sur le revenu universel d'activité. Vous allez au-devant d'une catastrophe pour les plus pauvres. Le chiffre de l'INSEE montre que nous avions raison et je crains que nous ayons encore raison à l'avenir.
C'est Claire Chaudière qui interrogeait l'économiste François Soulages. Colère aussi contre la réforme des retraites du gouvernement avec cette date à noter dans vos agendas, le 5 décembre, journée de grève et de manifestation. La CGT, FO, la FSU Solidaire et quatre organisations de jeunesse appellent à une mobilisation interprofessionnelle contre la future réforme des retraites. Ce 5 décembre a aussi été choisi à la SNCF et à la RATP pour débuter une grève illimitée. Une alliance de toutes les forces syndicales. Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, l'appel de ses voeux au micro de nos amis de France Info.
Nous ne sommes pas entendus, donc le 21 septembre, moi j'avais dit, pour se faire entendre à ce niveau-là, parce que ça concerne l'ensemble des salariés, bien sûr qu'il faudra aller vers une unité d'action syndicale la plus large. Nous sommes opposés au projet d'un régime unique par points. On peut travailler sur l'amélioration de la situation des femmes, on peut améliorer la situation des jeunes. Il faut améliorer, ça a été pointé du doigt par la Cour des comptes, la situation de l'emploi des seniors. C'est par là qu'il faut commencer. Et on verra que si on garantit un véritable emploi avec un bon salaire tout au long de la carrière, la question de l'équilibre financier des régimes de retraite se posera en d'autres termes.
Voilà un feuilleton qui tient en haleine de nombreux conservateurs de musées.
L'homme de Vitruve sera-t-il la star de l'exposition de Vinci au Louvre ? L'Italie vient d'autoriser le prêt de l'œuvre au musée parisien. Elle rejette une action en justice lancée par une association de défense du patrimoine italien. L'homme de Vitruve, c'est ce dessin d'un homme dont la silhouette est entourée d'un cercle, les bras et les jambes dédoublés. Bruce de Galzin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Alors les visiteurs parisiens vont effectivement pouvoir l'admirer ?
Et il aura fallu moins d'une heure au juge du tribunal administratif de Venise, où est conservé l'homme de Vitruve, pour autoriser en effet le départ de l'œuvre de Vinci. Car non, l'homme de Vitruve ne constitue pas le fond principal, l'identité même des galeries de l'Académie à Venise. Et donc non, il n'est pas interdit de prêter cette œuvre. Le tribunal rappelle d'ailleurs que dans le passé, d'autres œuvres ont été prêtées à l'étranger, des œuvres de Giorgione et de Bosch ou de Michel-Ange. Et les arguments de l'association Italia Nostra sur la fragilité de l'œuvre, notamment qui ne pourrait pas voyager, sont jugés infondés. Par le tribunal, il estime au contraire que le ministère de la Culture a correctement fait son travail. La suspension de l'accord signé entre la France et l'Italie aurait aussi porté préjudice au musée du Louvre, explique le tribunal. Il se range en fait derrière les arguments du ministère de la Culture italien. L'exposition aura une portée internationale exceptionnelle, a dit l'avocat du gouvernement. Elle permet à l'Italie de valoriser son patrimoine et ses musées. Et l'avocat a enfin insisté sur l'avantage obtenu par l'Italie en échange des œuvres de Vinci, puisque 5 peintures et dessins de Raphaël seront exposés à Rome l'an prochain.
Merci beaucoup Bruce de Galzin en direct de Rome. Je vous rappelle que l'exposition de Vinci s'ouvre dans moins de 2 semaines, le 24 octobre, et va durer 4 mois au Louvre jusqu'au 24 février. Et je vous invite à réécouter absolument le numéro de notre podcast Poursuite consacré justement aux coulisses de cette exposition, événement culturel incontournable de cet automne.
Absolument, on en fera même un téléphone sonne assez rapidement d'ailleurs. Amélie, merci beaucoup.